Les Clairvoyants est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 70e épisode des Clairvoyants.
Les Clairvoyants.
Before we get started, does anyone want to get out?
Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 70e ou 70e, comme on dit chez moi, épisode des Clairvoyants. Comme tous les mois, on se retrouve pour parler du MCU, du Marvel Cinematic Universe, avec mes acolytes Fox et Archeon. Salut les gars.
Hello.
Salut tout le monde.
Alors vous allez le voir, hein, ce mois-ci, on a vraiment pas grand-chose côté news, hein, tout est encore à l'arrêt. On aura l'occasion quand même de vous donner deux, trois petites nouvelles, notamment du côté des séries Disney+. On profite de cette accalmie pour faire un gros récap de la phase 3 des films du MCU, donc ça risque de durer un petit moment. Il y a des choses à dire, il y a 11 films. On écoutera évidemment un peu de musique et on fera un focus ce mois-ci sur la série des What If qui va bientôt être adaptée sur une série animée Disney+. Et puis bah, on fera aussi votre courrier et on fera un petit retour sur un ancien épisode des Clairvoyants. Je propose qu'on y aille tout de suite avec la très chétive rubrique News.
God, we haven't caught up in a spell, have we? Avengers broke up. We're toast.
Broke up? Like a band? Like the Beatles?
True Believers, c'est notre rubrique news du MCU. Alors bah depuis quelques mois, depuis le début de la pandémie, en fait les news sont de moins en moins nombreuses et tous les mois je vois la conduite se réduire de plus en plus, fondre comme neige au soleil et ça va pas s'arranger ce mois-ci. On espère que ça va commencer à reprendre un petit peu à partir du mois prochain. Alors on a déjà une bonne nouvelle, mon cher Fox, puisque bah on se demandait un peu ce qui allait advenir de la SDCC. C'est quand même le gros rendez-vous comics, on espère, avec des nouvelles annonces de Marvel. On se demandait donc ce qui allait arriver à cette édition 2020, et on a appris qu'elle aurait finalement lieu, mais d'une manière un petit peu différente, et on s'y attendait.
Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que on pourra pas faire de San Diego Comic-Con cette année dans les grandes salles, avec plein de cosplayers, plein de panels, tout ça.
Dans le hall H.
Et oui, donc cette année, il va y avoir une Comic-Con, ça c'est cool, parce que pour les nerds, ça fait toujours plaisir, et elle aura lieu en stream, donc on pourra participer, peut-être pour plus facilement profiter des conférences cette année en plus.
C'est exactement ce que j'allais dire, alors j'ai pas d'infos sur le fait que ce soit un accès payant ou pas, j'ai pas l'impression que ça le sera, donc effectivement, pour une fois, on va pouvoir profiter de la Comic-Con en direct. Je rappelle donc, c'est du 22 au 26 juillet, on aura l'occasion d'en reparler dans le prochain épisode des Clairvoyants, puisqu'on sortira un petit peu avant, donc on vous rappellera toutes les bonnes adresses pour aller regarder ça en direct et voir donc toutes les infos. J'espère que Marvel Studios y sera, j'ai pas vu passer d'annonce encore, donc je sais que l'année dernière, ils y étaient pas. Ils ont pas annoncé d'événement de leur côté non plus, donc on verra. Mais s'il y a des gens Marvel Studios, en tout cas, ça vaudra la peine de suivre. Une petite news en vitesse sur Spider-Man 3 qui n'a toujours pas de sous-titres. A priori, donc dans une interview, J.K. Simmons a expliqué qu'il avait signé pour plusieurs films. Alors, c'est pas vraiment une surprise, c'est un peu dans les habitudes de la maison. Mais on croise quand même les doigts malgré tout pour le revoir dans le troisième film Spidey. Enfin, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte.
À peine.
Thomas, il s'en fout.
J'ai pas osé le dire parce qu'après, on va dire que je suis un gros pessimiste, mais.
T'es vraiment sale. Hein.
Mais c'est cool. Non, je vais pas dire je m'en fous. C'est chouette, mais ce serait pas le cas, ça serait pareil, quoi.
Ouais, c'est vous dire le niveau des news qu'on a ce mois-ci. Hein. Bref. On va vite passer sur Disney Plus et des news du côté de Falcon and the Winter Soldier, puisque bah, comme on le supposait, en fait, le tournage n'est effectivement pas terminé. On pensait qu'ils avaient tout bouclé, mais en fait non, il reste encore quelques petites scènes à tourner. Et il est toujours interrompu donc pour cause de Covid-19. Et heureusement, Anthony Mackie a déclaré dans un talk show américain, je sais plus lequel, que visiblement il leur reste pas grand chose à filmer et qu'il espère que ça va pouvoir reprendre bientôt. Donc on n'a toujours pas de confirmation ou d'information de la disponibilité de la série en juillet, je crois que, enfin, ils avaient dit été 2020, hein, si je dis pas de bêtises.
Oui, ça devait être été 2020. Là, je pense que il va y avoir pas mal de reshoots qui vont être faits à partir de juillet sur certains tournages. Donc, je pense qu'ils vont peut-être reprendre et ça va décaler un petit peu la série, peut-être à la rentrée, peut-être à l'automne. Mais
la question qu'on se posait aussi, c'était de savoir si ça devait absolument être regardé dans la continuité de Black Widow. Auquel cas, comme Black Widow est reporté en novembre, il y a peut-être toujours un risque que la série Falcon et Winter Soldier soit reporté aussi. Mais je ne suis pas vraiment convaincu qu'il y ait une connexion directe. Je serais assez étonné. Enfin bref, on verra. Et puis WandaVision, là aussi, le tournage devrait reprendre au mois de juillet. Alors, on n'avait pas l'intention d'en parler à la base, mais on n'a pas grand-chose d'autre à dire ce mois-ci. Et vu que ça tourne beaucoup en ce moment, la rumeur du jour, j'imagine que vous l'avez vu passer vous aussi, hein, c'est l'arrivée d'Evan Peters dans le casting de la série WandaVision. Alors forcément, ça a balancé des grosses rumeurs autour de tout ça, comme quoi c'était l'arrivée de l'univers des X-Men, de la Fox chez Marvel Studios. Alors déjà, on va se calmer tout de suite, vu que la source de cette information, avec des gros guillemets, je fais les R guillemets mais vous les voyez pas, elle nous vient de notre cher Charles Murphy. Alors Fox, hein, on va pas rappeler qui c'est le monsieur.
Non.
Serial rumoreur, je sais pas comment on dit, mais enfin en tout cas un monsieur qui pond de la rumeur, et pour le moment bah il s'en donne à cœur joie, vu qu'il y a pas d'actu, il faut bien meubler.
Oui c'est ça, et puis bon, on va reprendre Murphy, mais en vitesse, c'est quand même un mec qui se fait payer pour inventer des trucs.
C'est vrai.
Donc c'est un affiliateur professionnel qui te dit paye mon Patreon et je vais te révéler des infos exclusives qui s'avèrent être surtout du bullshit exclusif qui est publié sur Screen Rant.
Tout à fait.
Hein, donc ne suivez pas les mauvaises maisons d'information qui vous racontent n'importe quoi pour faire du clic.
Voilà, il y a pas de news MCU en ce moment et bah voilà, on vous le dit, on n'invente pas des choses. Il y en a plein, hein, qui tournent en ce moment des rumeurs, c'est hallucinant, j'en ai jamais vu autant. Il y en a une sur Hercule, son arrivée dans l'univers des Avengers. Enfin voilà, il y a, comme je le notais dans la conduite, hein, il y a plein de petits sites qui cherche désespérément de la visibilité en ce moment, et comme bah il y a pas de news MCU, il se rattache à n'importe quelle petite rumeur, et ces petites rumeurs sont ensuite propagées par des gros sites qui ont de l'audience et qui donc bah font finalement du clic pour tout le monde. Comme je le disais, donc au final tout le monde y gagne sauf le lecteur. C'est un peu le constat que je fais en ce moment. Donc il est temps que les news reviennent. Et pour notre part, bah on va passer à la rubrique récap théorie crafting, à notre section Avengers, c'est pas l'heure.
To see all the possible outcomes of the coming conflict.
How many did you see?
14,605.
How many did we win?
One.
Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation. Une fois de plus, vu le peu d'actualité, le peu de news qu'on a en ce moment, difficile de faire du théorie crafting. Donc, ce qu'on avait décidé de faire ces derniers mois, c'était des récapitulatifs des différentes phases des films du MCU. On a fait la phase 1 il y a 2 mois, la phase 2 le mois dernier. On va faire cette fois-ci le gros morceau, la phase 3. Alors, est-ce que vous vous souvenez, je crois que Fox, tu t'en souviens, hein, quand on a suivi de loin via les tweets et via les live feeds, la fameuse conférence Marvel Studios d'octobre 2014.
Ah oui.
C'était quand même quelque chose, hein.
Captain American de Serpent Society.
Exactement.
C'est ça que tu voulais dire. Surtout, non.
Le plus gros truc que j'ai en image, c'est, je crois que tu l'avais tweeté en plus, c'est le gros panneau avec Feige devant et t'as encore le logo Inhumans à la fin de la presse.
Oui.
Je crois que je te dire, là, avec un peu de recul maintenant, on se dit, bon, peut-être que Serpent Society, ça aurait été pas mal aussi, quoi.
Ouais, Inhumans, donc, qui était un peu le projet visiblement forcé au chausse-pied par Perlmutter, qui voulait absolument faire sa déclinaison, sa version des X-Men, mais dans l'univers de Marvel et plus chez la Fox. Et finalement, le film a été annulé, c'est devenu une série télé dont on se souvient avec douleur. Et puis des personnages dans Agents of S.H.I.E.L.D. aussi, qui finalement étaient pas si mal que ça, mais c'est vrai que c'était une annonce qui avait surpris un peu tout le monde, l'arrivée des Inhumans après le double chapitre sur les Avengers. Je me souviens qu'à l'époque, on s'était tous un peu posé la question de savoir si c'était pas aussi une vanne, comme donc ce fameux Captain America and Serpent Society qui est devenu par la suite Civil War. Je vous invite à aller voir la conférence, hein, elle est encore visible sur YouTube, avec une qualité audio pas top, mais ça vaut vraiment la peine, ça dure une demi-heure, et c'est vraiment vraiment un roller coaster, quoi. C'est, ça n'arrête pas, et c'est annonce sur annonce sur annonce, à une époque où, bah, tout le monde était vraiment, en attente d'informations, parce que Marvel Studios avait pas été présent à la Comic-Con cette année-là, donc on était vraiment, dans l'expectative. Et il y a eu de grosses, grosses annonces, Black Panther, Captain Marvel, Inhumans aussi, évidemment, et bien sûr, donc, la fameuse, troisième partie de la saga Avengers, divisée donc en Part 1 et Part 2 à l'époque, hein. C'était encore Infinity War Part 1 et Part 2. Ça a changé par la suite. Alors, je propose qu'on fasse un petit récap dans l'ordre chronologique de sortie. Le premier film de la phase 3, c'était Captain America Civil War. Et moi, ça reste un de mes préférés. Il y a pas photo, hein. Vraiment, c'est encore une fois un Avengers, quoi, 2.5 là pour le coup, mais avec malgré tout un vrai axe central autour de Steve Rogers et sa relation avec Bucky, sa relation avec Stark, qui je trouve était vraiment vraiment très intéressante. Alors, il y avait effectivement eu beaucoup de critiques à l'époque qui disaient que ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'espèce d'orgie de personnages qu'on avait dans les comics. Et quelque part, moi, j'avais trouvé ça plutôt bien, en fait.
Ça a énormément chouiné à l'époque. Ça chouinait
pas. Bah, moi, j'aime pas. Alors, je l'ai déjà dit dans ce podcast, j'aime pas Civil War dans les comics. Ça me fait chier. Je trouve ça confus. Je trouve pas ça intéressant. Je trouve que c'est plus un gimmick où les mecs se sont dit en fin de soirée. Oh putain, ça serait trop bien si on mettait tous les héros Marvel dans une seule BD avec deux camps qui s'affrontent, et voilà, ça m'intéresse pas. Et je trouve que ce qu'ils en ont fait justement de cette trame de parce que Civil War, finalement, ça veut dire guerre intestine, hein. On interprète souvent mal le terme, mais c'est pas une guerre civile au sens la population qui se relève contre, enfin qui se redresse contre le gouvernement. C'est vraiment un truc, c'est une guerre interne, et cette guerre interne, elle est vraiment super bien gérée dans le film. Et là, je parle beaucoup, donc je vais vous laisser la parole un peu aussi. Civil War, donc toi, Fox, t'étais chaud.
Moi, j'étais chaud. On pourrait reprendre les nombreux théories crafting qu'on avait fait à l'époque autour de Civil War, parce que oui. Moi, j'attendais
beaucoup. Qui va mourir?
Non, pas forcément celui-là, parce qu'on l'avait quand même dit sur le ton de la déconnade aussi, mais le premier truc important que j'attendais dans Civil War, c'était de voir l'évolution, justement, l'opposition entre Stark et Captain, parce que ça, c'était obligatoire qu'il le laisse, hein, on n'allait pas déconner, on savait très bien qu'il y allait avoir cette baston là, mais derrière, j'attendais, je savais pas à quoi m'attendre, dans le sens où on savait qu'il allait avoir une baston entre les uns et les autres, mais qui allait rejoindre le camp, et ça, je pense qu'on a fait une émission, on a fait un tour de crafting de 30 minutes sur qui va chez qui prend la garde des gamins.
Oh, très certainement. Et toi, Thomas, Civil War, bon souvenir, ou bien...
Si, bon souvenir, mais c'est comme Age of Ultron, en fait. C'est un film que j'ai appris à apprécier de plus en plus à force de le regarder.
C'est vrai?
Ouais, moi, je préfère quand même Winter Soldier dans la trilogie Captain America. Mm-hmm. Et oui, sur les reproches qu'il y a eu sur... c'est, il y a pas assez de personnages, ou le côté civil est pas assez représenté. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre aussi. Alors déjà, comme tu disais... avoir 200 mecs à l'écran qui se foutent sur la gueule, ça m'aurait pas intéressé
non plus.
Bah
ouais.
J'ai un peu de mal aussi avec la partie comics de Civil War, où il y a des très bons tie-in. Bizarrement, pour une fois, c'est les tie-in qui me plaisent plus que l'arc principal, qui est vraiment très dur à lire. Enfin, lourd plutôt, on va dire. Et après, il y a la partie civile, il y est quand même, parce que c'est là que les accords de Sokovi rentrent en jeu. On a quand même le gouvernement qui s'en mêle. On a quelques pistes. On a j'ai oublié le nom de l'actrice qui lance le truc avec en allant voir Stark en disant mon fils, c'est cool, il est mort parce qu'il s'est pris une deal sur la tronche, et c'est un peu votre faute, quoi. Donc ça y est quand même, et ce qui est intéressant, c'est que ça y est en filigrane derrière, et pendant ce temps, on a le développement des persos qui est super intéressant, la liaison entre Stark et Rogers, qui est vraiment cool, la finalité de comment devient Rogers en disant c'est bon, vos trucs de gouvernement, moi j'en ai marre, je pars de mon côté, je me casse, quoi. C'est ouais, je me casse, allez, ciao les cons. Et ouais, non, c'est au début, alors je l'ai apprécié la première fois que je l'ai vu, mais je l'ai de plus en plus apprécié à force de le revoir quand même.
Ouais. L'effet Age of Ultron, donc. C'est un film important, hein, dans la phase 3 et puis dans le MCU de manière générale. Voilà, c'est mérité qu'on s'y arrête un petit peu plus longuement. Ensuite, ça a été Doctor Strange en novembre 2016, hein, sous la patte de Scott Derrickson. Grosse réussite aussi pour ma part. J'avais trouvé, déjà visuellement, le film... Alors oui, ça ressemblait un peu à Inception, etc. Tout ce que tu veux, super. Il n'en reste pas moins que la scène de poursuite dans les univers qui basculent et tout... Et elle est assez folle et je veux même pas savoir comment ça a été géré en interne au niveau de la post-prod. J'ai le souvenir d'un bon affrontement final avec le Big Bad, avec Dormammu. J'avais trouvé ça plutôt original pour l'époque, justement, d'éviter l'écueil du ils vont se bastonner la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit par terre, où il y avait un côté beaucoup plus subtil dans cet affrontement. Sinon, vous en retenez quoi de Doctor Strange?
L'univers de Ditko qui est très très ouais, présent et qui est très respectueux du matériau. Ouais. Même si évidemment, c'est amélioré avec les moyens modernes. On va pas se mentir, hein. Les mecs, ils ont quand même poussé les potards à 11. Les scènes de combat avec The Ancient One dont Tilda Swinton qui sont juste à tomber par terre, avec toute la ville, comme tu le disais, qui part dans tous les sens. Et puis cette dose d'humour dans la relation entre Doctor Strange et ce qu'il y a autour de lui, parce que ça reste quand même les gens ont tendance à voir Doctor Strange, voilà, c'est le magicien suprême et tout, ils oublient que c'est quand même un fameux connard quand même. Et il y a ce côté que Derelict Fluttersnatch a de avec sa tête un peu bizarre de très bien jouer le mec qui est quand même un peu un connard.
Toi, Thomas, qui vient des comics, c'était une bonne adaptation pour toi?
Ouais, il y a des plans qui viennent directement des pages de comics, qui sont quand même plutôt bien faits. Enfin, visuellement, vous l'avez dit, c'est une claque. Hein. Ouais. Quand Ancient One l'envoie balader avec un coup de poing dans le thorax, là, que le mec, il part faire un trip dans l'espace avec des mains, des différentes dimensions. Enfin, ouais, tu vois les planches de Ditko dedans. Après, il y a aussi la planche de The Oath, où il se fait ranimer, et il y a toute la baston dans le plan astral, moi, j'adore. Mm-hmm. Elle est super chouette. Mais un des trucs que j'ai le plus kiffé dans le film, ça reste, la bande-son. C'est ma bande-son préférée de la phase 3.
Ouais, elle est vraiment chouette. Hein.
Tous les instruments utilisés, la sonorité des espèces de clavecin, les instruments un peu anciens qui te donnent un petit côté mystique, du coup, qui colle bien avec le film. J'ai adoré cette bande-son.
Bande-son de Michael Giacchino. Et puis ensuite, c'était Guardians of the Galaxy Volume 2 en mai 2017. Je sais qu'il a eu assez mauvaise presse, on s'entend, il a été assez critiqué par les fans qui l'ont généralement moins apprécié que le premier, et c'est pas mon cas en fait. Je l'ai revu il y a pas longtemps et je le trouve vraiment très très chouette. C'est un film assez différent du premier finalement dans sa narration, et je trouve qu'avoir été chercher le concept d'ego qui est un truc dans les comics pas facile à adapter, et d'en avoir fait ce que Gunn en a fait, j'avais trouvé ça plutôt réussi. Vous étiez plutôt du côté des gens un peu déçus, ou...
Pour le coup, j'ai beaucoup aimé le setup. Kurt Russell est fabuleux. La fin est fabuleuse, parce qu'on a quand même Sylvester Stallone qui se ramène et t'es là, bon, d'accord, ça pète quand même super bien. Il y a quand même, pour moi, il y a un énorme ventre mou quand ils arrivent justement sur Ego. Tout ça, c'est bien, mais c'est extrêmement étiré en longueur et ça gâche un peu le film à mon goût. Ça m'avait un peu fait sortir du film, parce que ça traînait en longueur, et ce ventre mou là est peut-être perfectible, mais ça reste un bon film.
Bah, ça reste un deuxième acte d'une trilogie, j'ai vraiment l'impression, hein. Donc on prend plus de temps de s'intéresser aux persos, il y a beaucoup de dialogues, il y a un peu moins d'action effectivement, c'est moins frénétique que le premier peut-être, mais moi ça m'avait pas dérangé, au contraire, je trouve qu'on prend un peu le temps de se poser sur ces persos, ce qu'on n'avait pas vraiment fait dans le premier. Et je trouve que Gunn le fait vraiment bien, quoi. Et après, en plus, c'est des persos qui ont pu évoluer dans la franchise Avengers, mais on y reviendra après. Thomas, tu voulais dire un truc sur le film, toi ?
Non, mais je suis globalement du même avis de Fox. Ça m'a bien plu. Il y a un petit ventre mou au milieu, c'est vrai aussi, je suis d'accord avec lui. Un espèce de développement qui prend un peu son temps à se mettre en place. Le développement de Rocket Raccoon est super cool. Ce qu'ils ont fait du perso, la scène dans la forêt, il est tout seul en train de défendre son vaisseau, elle est classe. Baby Groot, ça m'a saoulé. Vraiment, ça m'a saoulé. J'ai saoulé. J'ai du mal enfin, j'arrive à comprendre pourquoi ils ont fait ça, mais le toute l'utilisation qui en a été faite, ça m'a un peu gonflé. Mais c'est une sauce gun qui marche bien. Et moi, je pense ce qui m'a un peu fait décrocher quand même, c'est que c'est la recette est un peu trop la même en fait. L'effet de surprise est plus là, quoi. Ça m'a pas mis la même claque que quand j'avais vu le premier en 2014. Quoi.
Ouais, c'est clair. Guardians of the Galaxy Volume 2, qui était sorti donc en mai 2017. Et puis on a complètement oublié d'en parler tout à l'heure dans Civil War, mais c'était l'arrivée d'un perso qu'on attendait attendait depuis longtemps dans le MCU, c'est Spider-Man, qui va donc avoir son propre film, le premier chez Marvel Studios en juillet 2017, c'est Homecoming. Et ça avait été pour moi une très très, je vais pas dire surprise, parce que j'étais pas vraiment surpris, mais j'étais très content de voir qu'ils avaient réussi leur coup et qu'ils avaient réussi à vraiment faire un bon Spider-Man, enfin en tout cas comme moi je l'aime, quoi. Je sais pas si c'est votre ressenti, toi, Fox.
Moi j'ai kiffé. Je l'ai vu trois fois. Première fois dans une salle parisienne, très inconfortable, bondée avec des gens qui ne connaissaient pas Spider-Man.
Ça donc, existe.
Oui, j'ai eu beaucoup de mal à me tenir pendant la séance entre leur expliquer et leur dire de fermer leur gueule. Pour revenir au film, j'ai beaucoup aimé la relation entre Underwoods, comme il l'appelle, et Tony Stark, cette vision de Stark qui prend un peu la place du père et qui en même temps t'as l'impression que tu te rends compte que Stark avait commencé déjà son cheminement qui le menait vers Infinity War et Endgame en fait. Et il forme petit à petit, il essaye de former Spidey pour être meilleur que lui et pour prendre sa suite pour plus tard, parce qu'il sait qu'il sait qu'il va pas faire de vieux os. Après, le film est vraiment cool, le vautour est juste, enfin, Michael Keaton, quoi, voilà, c'est Michael Keaton bitch.
Et toi, Thomas, Spider-Man, MCU, ça t'a plu?
Ce qui est plutôt cool, c'est que habituellement on se chauffe pour tous les films qui vont sortir, et je l'ai déjà dit ici, moi, Spider-Man, je m'en foutais un peu qu'il arrive dans le MCU ou pas, c'est... S'il était là, tant mieux. S'il était pas là, c'était pareil. Ben, un peu comme, voilà, on en revient. Hein. C'est comme J.K. Simmons ou pas qui revient. Mais, et donc, du coup, j'avais pas monté une grosse attente pour le film, quoi. C'était vraiment, bah, je jugerais sur pièce. Et c'était plutôt agréable de voir le film et de pas retomber dans le, avec de grands pouvoirs implique de grandes responsabilités, ouais, la mort, ouais, de Ben Parker, etc. Et le switch, comme disait Fox, d'avoir fait vraiment passer Stark en figure paternelle, parce qu'en fait, il voit Holland comme un jeune lui, en fait. L'arrogance en moi, au final. Donc, il se dit, peut-être que là, moi, j'ai merdé parce que j'ai une trop grande gueule, lui il pourra faire des choses mieux parce qu'il est un peu plus posé terre à terre, quoi.
Tout à fait.
Et j'avais vraiment bien kiffé ce premier film Spidey. Ouais.
Film de John Watts, donc juillet 2017, et ouais, c'était une chouette arrivée pour Spider-Man dans le MCU. On va passer ensuite à ma pierre d'achoppement avec Fox, c'est Thor Ragnarok, le troisième volet des aventures de Thor, qui est sorti en novembre 2017, chapeauté par Taika Waititi, et un gros changement dans la franchise, et j'ai envie de dire, il était temps. On avait un peu l'impression que Marvel Studios savait plus trop quoi faire du perso, à part le mettre en grosse brutasse dans les franchises Avengers. Et puis là, bah, réinvention complète du personnage, avec un côté comique complètement assumé, décalé, avec un Jeff Goldblum qui est absolument incroyable dans ce film. Je veux un film rien que sur ce personnage. Mais Fox, toi, je sais que curieusement, non.
Alors... curieusement, non. Alors, c'est un film magnifique avec une photographie qui est incroyable. Je ne renierai pas le film parce que je l'ai revu plusieurs fois. C'est l'un de ceux que j'ai dû revoir le plus.
Ah ouais.
Justement, je voulais profiter du reste et me sortir de mon idée de vieux nerd. Parce que moi, mon point d'accroche avec Taika Waititi, c'est ce qu'il a fait de corps gimmick, en les transformant en personnages à ressort comique. Sachant que moi, j'attendais, on a une partie World War Hulk avec l'arène, avec le combat d'arène avec Thor. Et on a la résistance qui doit se libérer, donc c'est le début du Warbound, c'est quelque chose de super intéressant et tout. Et là ils m'ont foutu un Korg avec la voix de Taika Waititi.
Ouais, mais bon, c'est un détail.
Non, c'est pas un détail, la putain de ta race.
C'est un personnage secondaire.
On va te mettre Namor avec une moustache, tu vas faire des ronds de jambes, tu vas
mais
gueuler.
Mais ils feront jamais ça.
Ah bah ils feront jamais ça, regarde ce qu'ils ont fait à Korg.
Ben, Korg est un petit personnage. Enfin bref, tout ça pour dire
non, voilà,
que...
Non, mais c'est juste ça m'a vraiment dérangé. Après, enfin, la scène finale de baston sur le pont du Bifrost, c'est une merveille. Enfin, le film est généreusement beau, il est outrancier, mais il fonctionne très bien.
Non, et puis en plus, c'est un arc important, c'est une partie importante de l'arc de Banner, en fait, aussi, hein, ce film, l'air de rien. Il y a quand même beaucoup qui tourne autour de Hulk. Et comme il a plus sa franchise à lui, bah, c'est un film qui, malgré tout, a son importance, juste pour voir un peu évoluer le personnage et voir comment on en arrive à cette espèce de grosse brutasse des premiers films Avengers à un truc beaucoup plus réfléchi dans les derniers. Thomas, toi, Thor Ragnarok, bon souvenir?
Ouais, mais en fait, je comprends parfaitement toute la discorde autour du truc, parce que je sais que pas mal de gens étaient un peu frustrés du traitement un peu buddy movie. Moi, personnellement, je le prends comme un bah, c'est l'occasion de souffler un peu dans le MCU, qu'on est en milieu de phase 3, là. Il y a des gros morceaux qui vont arriver. Avoir un peu de déconnade qui arrive et d'espèce de l'humour bro-dude, ça passait plutôt bien. Dans l'absolu, enfin moi, je retiens pas grand-chose de phénoménal, juste le final qui est vraiment lourd, quoi. Il y a plus d'Asgard au final, donc c'est un gros impact quand même.
Ouais, c'est vraiment l'ouverture vers Infinity War. La scène post-générique est quand même assez bouf. Ça calme.
Mais après, moi, le truc que je retiens le plus et que j'ai le plus adoré, c'est Chris Hemsworth. Mais pas vraiment le Thor, c'est vraiment Chris Hemsworth.
On voit qu'il s'éclate, hein.
Ouais, c'est ça. Et en fait, surtout quand on avait des références de Thor avant, bah on disait, vous avez vu ses bras, il est trop musclé, c'est bien, etc. Le mec, il débarque, il fait, mais je peux aussi faire de... Alors, c'est pas lui qui a tout écrit, mais il arrive à jouer la comédie, quoi. C'est un mec marrant, c'est un mec qui s'éclate, c'est un mec fun, quoi. Donc, c'est, moi, surtout impressionné par la métamorphose de Chris Hemsworth, du coup.
Voilà, du coup, très intrigué de voir ce que va faire Taika Waititi avec le 4e volume de la franchise. En février 2018, c'est la sortie de Black Panther. Alors, c'est un film sur lequel, nous, on avait mis beaucoup d'attentes, notamment par rapport aux Infinity Stones. Parce que, en fait, on arrivait sur Avengers Infinity War et on ne savait toujours pas où était la Soul Stone. Et on avait théoricrafté, je pense qu'on aura l'occasion de l'écouter un jour dans le Quantum Trip, on avait théoricrafté sur la présence donc de la Soul Stone dans Black Panther. Il n'en sera rien. Black Panther, c'est vraiment un film un peu à part, où il n'y a pas vraiment de connexion directe avec le MCU, en tout cas pas de manière forte comme on a pu l'avoir dans les autres films de cette phase 3. C'est un film important, évidemment, d'un point de vue culturel, hein. C'est première franchise avec un cast quasi exclusivement noir, avec réalisateur noir, que des gens de couleur et issus des minorités qui sont représentés dans ce film, donc c'était un film important. Après, c'est vrai que c'est pas un film qui m'a laissé une marque indélébile, et je pense que ce qui m'a surtout déçu, alors que curieusement d'habitude je suis pas trop sensible à ça, c'est en fait la qualité des effets visuels dans la toute fin du film. En fait, on sent que ça a été rushé, il y a eu plein de vidéos sur le sujet, il y a eu plein d'interviews, on sent que ce dernier combat en fait entre Black Panther et Killmonger, on sent que ça a été rushé au niveau de la post-prod, et du coup ça m'a un peu sorti du film alors que ça aurait dû être vraiment l'apothéose. Mais voilà, sinon pour le reste, une très très bonne bande son. Ça évidemment, Ludwig Göransson, dont je suis méga fan. Et puis Thomas, toi tu parlais aussi de l'autre bande son, la bande son alternative.
Celle qui accompagne Kendrick Lamar, ouais, que ouais. Moi j'adore. Pas tous les morceaux, mais la plupart quand même sont... C'est Kendrick Lamar, de toute façon, c'est pas loin d'un génie, mec.
Et sinon, globalement, Black Panther, vous en avez gardé un souvenir comment?
Ah, moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai... Ah ouais, moi, c'est... Il est rentré direct dans mon top 10 parce que c'est... Je suis d'accord sur les effets visuels, je suis totalement d'accord avec toi.
Ouais, c'est vraiment dommage, quoi. Ça fait tâche.
Ça fait tâche et ça aurait mérité un petit rework pour le Blu-ray, je pense. Même un sérieux rework pour le Blu-ray. Mais l'ambiance, les personnages, le travail de Ryan Coogler dessus est assez ouf. Tous les acteurs, moi je suis vraiment le Wakanda, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance dans les comics Marvel. Black Panther, c'est un personnage que j'ai toujours adoré, et le voir enfin au ciné aussi respecté dans sa mythologie, et pourtant c'est transformé parce qu'ils ont rajouté des trucs, voilà, ils ont simplifié des choses, mais c'est ultra respectueux le travail qui a pu être fait autour. Enfin, moi ça m'a honnêtement, j'étais enchanté. C'est d'ailleurs j'ai craqué mon casque Black Panther de que j'ai pu, si tu veux, parce que non, mais le design de l'armure est incroyable, la relation avec Shuri, il y a une patte qui est très différente dans l'écriture, et le travail de Coogler et le travail de toute l'équipe a été pour moi vraiment formidable, je me suis régalé.
Et toi, Thomas?
J'oscille entre le bien et le moyen, j'ai quand même apprécié, mais là où j'ai vraiment du respect pour ce film-là, c'est tout le travail qu'il y a sur l'univers qu'il y a du film. Que ça soit au niveau de la linguistique, où les mecs ont fait des recherches de tarés pour avoir des, en dehors de l'anglais qui est utilisé, il y a pas mal de langues africaines qui reviennent, de dialectes qui sont travaillés à mort. Les costumes aussi qui ont été pris sur des peuples africains qui représentent chacun des choses très spécifiques. Le design de Wakanda qui est juste entre futuriste et un peu plus tribal, on va dire. Mais c'est la grosse force du film surtout, c'est qu'il est imbriqué dans une phase 3, donc dans un univers cinématique et il arrive à apporter plein de choses nouvelles, mais également il est super ouvert pour ceux qui n'ont pas vu le reste de l'univers en fait.
Ouais, tout à fait. Ouais. On peut parfaitement aller voir Black Panther sans du tout connaître le MCU et tu passeras un bon moment aussi à mon avis.
Et c'est là où c'est bien, c'est que avec le message qu'il porte en fait, avec toutes les personnes racisées qui peuvent aller le voir par exemple et qui bah, vu que c'est quand même pas mal de gens noirs qui l'ont réalisé, qui ont bossé dessus, c'est comme tu le disais, hein, tout le casting était dessus, de réussir à faire un film qui est à la fois autant imbriqué dans l'univers cinématique mais aussi visible pour tous. C'est moi je trouve ça juste le taf qui a été fait sur l'univers et bah, il est parfait quoi. C'est
on verra ce que ça donnera pour Black Panther 2 et puis après ça a été la sortie du très attendu Avengers Infinity War en avril 2018, donc la franchise Avengers qui devait normalement proposer un film en deux parties choisit finalement de renommer les deux films séparément, donc à l'époque on ne connaissait pas encore le titre de la suite. Alors Infinity War on va pas en faire des tonnes non plus, je pense que on sera tous d'accord pour dire que ça a été une grande réussite et qu'on s'attendait vraiment à tout et n'importe quoi et surtout à la difficulté de gérer en fait des castes aussi larges, aussi impressionnants. Il y avait je sais plus combien de dizaines de personnages au final et d'avoir réussi à donner à tous ces personnages du temps d'écran qui avait du sens et de faire avancer leurs arcs respectifs, etc. Et puis surtout d'avoir pris complètement le contre-pied des codes des films de super-héros en attribuant donc le rôle du héros au super méchant Thanos. Pour moi c'était une réussite, c'est vraiment sans conteste mon film préféré du MCU. Je le préfère même à Endgame en fait, même si j'ai beaucoup d'affection pour Endgame, on en parlera tout à l'heure. J'imagine que vous c'est pareil pour Infinity War.
Oui. Voilà, c'est simple.
Mais encore une fois, moi c'est Chris Hemsworth, quoi, le mec qui sort de Thor Ragnarok, a balancé des vannes à la con, qui en fait encore quelques-unes dans le film, pour arriver au final, petit à petit, t'as un switch qui se fait où il se dit putain, mais en fait, j'ai plus de parents, j'ai plus de frères, j'ai plus de maison, ouais. J'ai plus d'œil. Enfin, il me reste plus qu'un sur les deux.
Il y a la scène avec Raccoon où il lui raconte tout ça qui est assez touchante, effectivement. Ouais.
Le mec part du jovial au début du film, un mec en état dépressif total à la fin, et c'est. Enfin, moi, j'adore ce qu'il a fait sur le rôle, en tout cas.
Allez, on accélère un petit peu là parce qu'on est déjà long. Ant-Man and the Wasp en juillet 2018, bah c'est la petite pastille digestive auquel nous a habitué le MCU depuis la phase 2. Et c'est un film qui va aussi introduire donc bah la notion de développer la notion de Quantum Realm qui va être réutilisée par la suite donc dans Endgame. Donc c'est un film qui est important dans la continuité de l'histoire mais qui est pas forcément indispensable non plus, ça reste un Ant-Man and the Wasp. C'est un bon film du dimanche bien fun avec un Paul Rudd qui fait du Paul Rudd, et donc moi ça me va, et le reste du cast aussi, hein, même Michael Douglas dans son rôle de vieux aigri est parfait. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur Ant-Man and the Wasp.
Ghost.
Et Ghost qui est très 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 réussi aussi, ouais.
Je suis juste sur le cul qu'ils en aient fait deux, quoi, au final.
Et il y a un troisième quoi, qui arrive.
Il y a un troisième qui arrive, quoi.
Ensuite, c'était Captain Marvel en mars 2019. C'était aussi un film important d'un point de vue culturel. C'était le premier film avec un lead féminin chez Marvel Studios et il était plus que temps. C'est pas un film qui m'a laissé un souvenir impérissable. J'y repensais il y a pas longtemps parce que comme là, je suis en train de boucler le tome 2 des coulisses du Marvel Cinematic Universe. Je me remémore un peu tous les films et je me rends compte que c'est celui dont je me souviens le moins et probablement celui que j'ai revu le moins aussi. J'ai pas de problème avec Brie Larson comme ont pu l'avoir plein de nerds dans leur cave. Je sais pas, est-ce que le perso est disproportionné et que du coup ça la rend moins humaine et moins attachante? C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un film qui m'a laissé une trace indélébile. Je sais pas pour vous, Thomas, toi?
Moi je l'ai adoré, c'est...
C'est vrai?
L'interprétation de Larson, je la trouve vraiment, il y a juste ce qu'il faut de femme un peu trop sûre d'elle, mais qui est quand même à ce qu'il faut derrière pour être sûre d'elle aussi. Enfin, c'est, je sais pas trop comment l'expliquer, c'est, parce qu'on la sent quand même vachement arrogante pendant quasiment tout le film. Mais au final, on se rend compte que, bah, ouais, mais elle a de quoi être arrogante quand même, en fait. Donc, et elle est sûre d'elle, elle fait le taf comme il faut, elle a une prestance qui colle bien. Je pense que ce qui plaît un peu moins aux gens, ça va être, il fait un peu trop, comment dire, action movie, cop movie, un peu bateau, quoi. Mais le twist sur les Skrulls que j'ai juste trouvé génial, et dans la phase 3 que tu as dit tout à l'heure,
ça c'était vraiment très très bien. Ouais.
Moi, c'est les deux utilisations de bad guy comics sur le ciné entre guillemets qui ont été faits. Tu parlais tout à l'heure du final de Doctor Strange que j'ai adoré parce que c'est pas un truc qui se règle avec les points mais avec plutôt de l'intelligence.
Mm-hmm.
Et là on a un twist en disant putain les Skrulls où est-ce qu'ils vont nous la mettre. En final non, c'est pas eux les méchants, c'est les Kree. Ouais. Et j'ai adoré ce film. Ouais.
En fait, faudrait que je le revoie. Je pense que ça fait partie de ces films du MCU que je brose et puis je me dis bon, j'ai pas envie de voir ça. Et en fait, faudrait peut-être que je me force à le revoir. Je pense qu'il y a effectivement des trucs qui vont me parler plus en fait que à la première vision. C'est vrai qu'en plus je crois que je l'ai vu qu'une fois, non je l'ai vu deux fois. J'ai vu une fois en projection presse dans des conditions pas idéales et je l'ai revu une deuxième fois chez moi dans des conditions pas idéales non plus, donc ça a peut-être pas aidé non plus. Bref, Fox, tu voulais vite glisser un mot sur Captain Marvel en quelques secondes.
J'ai bien aimé c'est un bon setup pour la suite de Tony Stark aussi, parce qu'il faut une opposition à la prochaine Civil War, parce que j'y pense déjà. Mark my word, prochaine Civil War 2 comme dans les comics. Après, bon, il y a eu toute la levée de boucliers autour, m'a saoulé parce qu'il y avait aucune raison. C'est un bon perso, elle pète des culs. Il y a Samuel Jackson qui m'a fait hurler de rire. C'est un bon film, j'ai bien kiffé. Je l'ai pas revu plus de 3 fois, je crois, mais j'ai eu au ciné, je l'ai vu en Blu-ray et puis je l'ai revu une autre fois. Mais c'est un bon film, c'est un bon film. Et s'il me repasse sous le nez, je vais pas dire non, quoi.
Ça me fait penser aux limites de leur technologie de rajeunissement qui est juste affolante.
Ouais, ouais.
Sauf quand tu fais courir les acteurs.
Oui.
Ou là, bah, t'as le poids des années qui fait dire, non, les gars, quoi, la technologie s'arrête là, quoi.
Ouais.
Le pauvre Samuel.
Ouais, c'est vrai qu'il souffre. Allez, on passe à Endgame. Ça, c'était avril 2019. On a déjà beaucoup parlé de cette saga avec Infinity War. Endgame, c'est la conclusion. Alors, c'est pour moi une grande réussite aussi. Hein. Je disais tout à l'heure que j'avais un peu moins aimé que Infinity War, mais ça se joue vraiment pas à grand chose. Rien que la scène d'ouverture, moi, à chaque fois, elle me tire les larmes, et puis bah le final, la conclusion de tous ces arcs, de toute cette époque en fait, finalement c'est une grosse page qui se tourne. Et puis visuellement, je trouve que c'est un des trucs les plus impressionnants qu'ait fait Marvel Studios. J'ai eu l'occasion de mater plein de vidéos qui présentent les effets spéciaux, le découpage, comment ça fonctionne, etc. Et c'est assez hallucinant de voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis surtout d'un point de vue narratif, c'était pas gagné non plus. Le voyage dans le temps, c'était super casse-gueule. Ils ont réussi à mettre en place des règles qui tiennent plus ou moins la route, mais qui en tout cas d'un point de vue narratif permettent de baliser le truc et d'éviter tous les soucis habituels de paradoxes, de machin. Donc au final, je trouve que c'est la conclusion parfaite à laquelle on pouvait rêver, en tout cas en tant que fan du MCU. J'imagine que c'est un avis qui est partagé à la fois par Fox et Thomas Fox.
Des larmes. Des litres de larmes. J'ai adoré ce film.
Cheeseburger.
Alors, ta gueule. Ça y recommence, les... Non, mais c'est une tuerie. Je l'ai vu 4 fois en une semaine. C'est te dire si voilà quoi. Non, mais il y a eu la scène qui a fait lever toutes les salles de ciné du monde à la même minute. C'est quand tu vois le marteau de Thor arriver dans la main de Captain. Ouais. Et là, c'est fini. C'est ma prédiction depuis Age of Ultron. Et j'avais raison. Ouais. Putain.
C'est un gros film à fan service, mais oui. En même temps, on peut pas lui reprocher. C'était un peu le meilleur film pour ça, quoi. C'est la conclusion de 10 années, voire 11 années de MCU, un nombre incalculable de films. Voilà, il fallait mettre du fanservice, c'était obligé. Et puis, quelle meilleure façon de le faire qu'en faisant du voyage dans le temps, en revisitant certaines séquences clés de la franchise, mais avec un twist qui justement quelque part rejoint un peu l'idée des What If, dont on parlera tout à l'heure dans le focus. Thomas, un mot sur Endgame?
Oh, pas beaucoup plus. Hein. C'est une conclusion idéale pour le MCU, enfin pas pour le MCU, mais pour au moins les 3 premières phases. Quoi. Fan de comics ou non, c'est une claque, quoi. C'est une claque.
Et puis, petit épilogue avec Spider-Man Far From Home, puisque finalement, il a été intégré à la phase 3. Et c'était, pour ma part, une grosse réussite aussi. J'ai bien aimé tout le côté gestion post-crise Endgame, mais avec la légèreté de Spider-Man. Le blip, comme ils disent dans la franchise Spider-Man. Et puis, Mysterio, voilà, il n'y a pas photo. C'est un super bad guy. C'est propice à des gros gros effets visuels dans tous les sens. Il y a toute la séquence où il se bastonne dans cette espèce d'univers, pas un univers virtuel, mais où il y a des projections partout et où il sait plus où il est, qui est assez réussi. Jake Gyllenhaal qui est parfait dans le rôle aussi. Et puis l'ouverture sur la fin vers un retour au Spider-Man hors la loi et l'arrivée donc de J.K. Simmons dont on parlait tout à l'heure en J.J. Johansson. Voilà, moi je trouvais que c'était vraiment la petite conclusion, le petit épilogue parfait, à la fois pour se détendre un petit peu après la grosse charge émotionnelle des 6 heures d'Infinity War et Endgame combinés, et puis aussi pour faire quelque part le deuil de Tony Stark avec beaucoup d'humour. Enfin, la séquence d'ouverture avec I Will Always Love You, elle est juste fantastique, quoi. Moi, elle me tire les larmes de rire à chaque fois que je la vois. C'est parfait.
C'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, je réalise qu'avec Spider-Man, dans la franchise Spider-Man, il y a mes deux personnages préférés du MCU. C'est les deux ados qui font le journal télé du lycée de Spidey, quoi, qui sont juste à pisser de rire. Quand l'autre lui demande de venir avec elle au bal de promo et qu'elle lui répond un nom froid et sans justification derrière, avec un gros plan sur sa gueule, le pauvre, il sait plus où se placer. Enfin, je les adore.
Et toi, Fox, Far From Home?
Far From Home, très bien. Bon, les effets visuels m'ont mis par terre, hein, parce que voilà, j'attendais une grande arnaque de Mysterio. J'ai été peut-être un peu déçu sur le turnover un peu facile de. Alors, on est tous les ennemis de Tony Stark, et comme t'es l'héritier de Tony Stark, c'est toi qui dois payer.
Alors, pas tous. Il y avait une partie des personnages qui avaient des choses à reprocher à Tony Stark, mais globalement, moi, j'avais trouvé ça plutôt malin, en fait, d'intégrer ça une fois de plus avec finalement ce qui est le personnage principal du MCU jusque-là. Hein.
Oui, oui, non, mais c'est malin, c'est raccroché au réel, mais j'ai trouvé ce passage-là un peu. Je sais pas s'il était nécessaire, en fait. J'aurais limite préféré voir Mysterio avec un crew d'escrocs autour de lui, de spécialistes, je sais pas, des braquages ou de la manipulation d'images, tu vois, c'était tous des spécialistes en plus, mais j'ai bien aimé le film. Le Mysterio en question, le Jake Gyllenhaal, est juste fabuleux, hein, faut quand même le dire. Il a bien fait souffrir notre Tom Holland, d'ailleurs, parce que c'est un drogué du sport, et tu vois qu'il a un peu pris du muscle à cause de Gyllenhaal, d'ailleurs, derrière, mais non, c'était cool. Et puis cette fin à Times Square avec la tête de Jonah Jameson, moi j'étais par terre. J'ai vu J.K. Simmons, c'était fini. J'avais de l'espoir encore. Que Sony fasse pas de la merde.
C'est pas fini. On espère qu'on le reverra donc dans Spider-Man 3. Et ça conclut donc notre petit récap de la phase 3. On a fait le tour des 11 films qui sont sortis donc entre 2016 et 2019. Et je vous propose de souffler un peu avec une petite pause musicale.
Jarvis, drop my needle.
Jarvis, Drop My Needle, c'est la pause musicale de notre podcast. On écoute des extraits de bande-son des films du MCU, et je vous propose de retourner dans la bande-son de Black Panther, qui était donc sorti en février 2018 avec le morceau Wakanda signé Ludwig Göransson.
Hey!
Voilà, Ludwig Göransson qui fait vraiment du très très bon boulot sur les bandes son, que ce soit Black Panther ou la bande son de l'excellente série de Mandalorian. On s'écoutait donc Wakanda tiré de la bande son du premier Black Panther.
I am MODOK. I am science. I am genius.
I am Science, c'est l'heure de notre focus sur un personnage, une organisation ou un arc des comics. Et comme c'est un peu calme en ce moment, on savait pas trop de quoi vous parler, on a décidé de vous parler des What If. Alors les What If, on en a déjà mentionné quelques bribes quand on a parlé de l'arrivée de la série animée sur Disney+, on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, c'est quoi en fait les What If dans les comics, mon cher Fox?
Alors les What If, c'est une série en fait qui a été lancée en 1975 par Roy Thomas. Et donc, ça propose une approche un peu différente des événements qui se déroulent dans la continuité principale de Marvel et des comics classiques. Et c'est une idée de Thomas, qui venait de quitter son poste d'éditeur en chef, mais qui restait chez Marvel, en fait, pour travailler sur quelques titres réguliers. Et à cette époque-là, il venait tout juste de créer les Invaders, et il a eu une idée d'écrire des histoires qui étaient rattachées à l'univers Marvel, mais sans casser la continuité qui lui permettrait de base d'utiliser un large panel de personnages, sans se prendre la tête à devoir les imbriquer avec les histoires dans celles des autres auteurs, et dans celles des autres séries aussi, ce qui est très très compliqué dans le monde des comics, parce qu'il faut que l'auteur d'en face soit d'accord que la série soit suffisamment intéressante pour pouvoir mélanger les deux personnages venant de séries séparées et tout.
En gros, il n'y avait pas assez d'univers alternatifs et de versions alternatives des personnages chez Marvel. Il s'est dit, tiens, on va en faire plus.
C'est un peu ça d'une part, et de l'autre, c'était un truc qui, il n'y avait aucun risque parce qu'on savait que c'était pas canon et ça bouleversait pas les publications en cours, en fait.
Alors, une fois qu'il a cette idée de What If, il va en parler à son pote Stan Lee.
Son patron. Et pote, oui. Et il va lui présenter le nom de What If, qui est un terme que Stan Lee utilise très souvent dans les conventions, de toute façon, sachant que il savait que ça allait l'aider à vendre son projet, en fait. Il va décider de faire le personnage du Watcher Watu. Donc le Watcher, on en a déjà un peu parlé, mais Watu, c'est ce personnage avec cette grosse tête et cette cape qui observe l'univers, qu'on voit justement dans un des caméos de Stan Lee.
Dans Guardians of the Galaxy 2,
en astronaute avec... voilà, donc ça, ce sont les Watchers, son personnage-là. Et donc, ils vont faire de Watu la pièce centrale de cette série What If, avec Watu qui observe comment ça se déroule, comment les événements se déroulent dans d'autres réalités. Comme ça, on voit des dimensions parallèles qui ne sont pas rentrées comme des dimensions séparées et entérinées dans Marvel, comme on a le 616, on a les autres univers numérotés. Ça sera arrangé un peu plus tard, mais ça permet d'avoir des petits one-shots et des petites séries où on sait qu'on regarde quelque chose à travers le prisme du Watcher. Et ça va commencer directement en février 77, premier numéro qui va sortir sous le nom de What If Spider-Man Join the Fantastic Four. Et ça a proposé une version alternative de Amazing Spider-Man 1 dans laquelle on retrouve Peter Parker mais fauché, qui va se faire embaucher comme cinquième membre de l'équipe pour au final causer le départ de Sue Storm, qui va aller trouver l'amour auprès de l'homme en slip Namor. Et ça va devenir un running gag. Sue et Namor vont devenir un running gag au fur et à mesure, et ça va être plus ou moins intégré dans les séries normales aussi. On sait que voilà, des petites histoires.
D'accord.
Le premier volume va s'étendre sur 47 publications qui vont s'étaler évidemment sur des années, avec des idées aussi différentes que « et si Conan était coincé au XXe siècle ?» ou alors « si Captain America était élu président ?» ou sur un truc plus sérieux vraiment, c'est « et si Gwen Stacy était encore en vie ?» Ce qui va donner justement les What If après qui vont devenir qui vont donner lieu à Spider-Gwen et à Gwenpool et ce genre de choses, par exemple.
Alors après, il va y avoir une petite pause entre 84 et 89.
Ouais, à partir de 84, les What If vont faire une pause, donc qui va durer jusqu'en 1989 et qui va revenir dans une nouvelle série. Le concept va rester le même, mais à la différence du premier volume, certaines histoires vont devenir beaucoup plus complexes et vont s'étendre sur plusieurs numéros. Et à partir de là, les auteurs vont faire beaucoup plus plaisir. En fait, ils vont introduire des fins multiples. Ils vont laisser le choix au lecteur de piocher dans celle qui lui plaît le plus. Donc ça devient limite un livre dont t'es le héros. En fait, tu choisis comment ton héros finit son histoire. Et pendant un court moment, ils vont renommer la série Marvel Alterniverse.
C'est pas terrible.
Mais dans cette série Alterniverse, on peut y lire des aventures comme l'un de mes préférés, mais qui est Punisher Kills de Marvel Universe.
Il n'y avait pas eu la même chose avec Deadpool aussi?
Deadpool Kills Marvel Universe, pareil, ça fait partie de la même sauce. Qui sont deux comics que je recommande parce que c'est totalement barré et en même temps c'est très très bien. Et donc, entre 89 et 98, le volume 2 est le plus long de la série avec au total 115 parutions. Il y a 115 albums ou adifs qui vont sortir à partir de là. Et donc, les Punisher Kills, les Deadpool Kills, et il y a plein de trucs vraiment très intéressants dedans. Et c'est, je trouve toujours que c'est un bon point d'entrée dans les comics. Si tu veux découvrir un personnage et voir dans les extrêmes du bordel, c'est quand même vachement intéressant.
C'est clair.
Et on va revenir à une période plus récente, parce qu'on revient, enfin, ça fait quand même 15 ans, on commence à vieillir. Mais en 2005, il y a C.B. Cebulski, qui est encore auteur avant de prendre sa place d'éditeur en chef en 2017. Il va proposer à Justin Gabry de relancer la série et il va directement obtenir le feu vert. Ça va maintenant s'axer sur le format des one-shot, avec des what-if qui vont faire de nombreux allers-retours chaque année dans les librairies, mais toujours sur des formats one-shot. Et donc, entre 2005 et aujourd'hui, on est à peu près à une dizaine de volumes différents qui ont vu le jour chacun, avec un concept à sa sauce. En fait, il prend le concept principal, mais il l'adapte, en gardant la base de trame alternative et qui va se rapprocher plus ou moins des événements en cours dans l'univers 616.
D'accord. Et donc, What If en série animée, c'est donc une volonté de Marvel Studios d'appliquer ce concept donc et qu'est-ce qui se passerait si qu'on connaît dans les comics, c'est de l'adapter donc au MCU.
Voilà.
On est très curieux. Il va y avoir des choses assez étranges comme T'Challa qui devient Star-Lord.
Les Marvel Zombies
ou bien
Peggy en Captain America.
John Carter qui devient Captain America. Voilà, tout à fait. Donc, il y a des choses assez rigolotes. Puis, c'est une manière intéressante pour Marvel. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, hein, il y avait les one-shot avant dans les bonus Blu-ray, ça a disparu depuis, et c'est à mon avis une nouvelle manière pour Marvel Studios de s'exprimer, d'expérimenter de nouvelles choses, et puis de se dire, tiens, c'est vrai, on pourrait peut-être envisager tel personnage dans telle situation, et changer peut-être telle trame, voir ce que ça aurait pu donner, etc., ce qui permet de revisiter un peu le MCU d'une manière assez originale. Et puis graphiquement, ça avait l'air assez chouette, donc je suis vraiment impatient de voir ça. On n'a toujours pas de date en revanche, mais je pense que ça ne devrait plus trop tarder. On va faire quelques recommandations de lecture, bien que ce soit pas facile, avec des what if donc qu'a sélectionné Thomas, et tu voulais faire un petit préambule par rapport à ça justement.
Ouais, juste une petite précision, en fait, c'est d'habitude quand on fait des recommandations, donc on va sur le classique, on présente l'auteur, les artistes, etc. Pour les what if, vu le nombre qu'il y a, c'est un peu plus compliqué. Et l'autre chose qui est compliquée aussi, c'est que c'est si un what if plaît ou pas, c'est vraiment très personnel, quoi. Je sais que moi, il y en a beaucoup qui me plaisent et qui sont franchement bidons, on va pas se mentir, et d'autres que je trouve vraiment dégueulasses, mais qui sont parmi les mieux notés quand tu regardes un peu partout.
Ça dépend de l'attachement au personnage, aux arcs, j'imagine.
Exactement. Ouais. Parce que vu que c'est vraiment en général, c'est des histoires qui sont très taillées pour un personnage. Donc si déjà de base, on n'a pas trop d'attache pour le personnage en question, il y a très peu de raisons que le what if passe. J'en ai quand même sélectionné quelques-uns. Alors, le premier, ça va être en 2014, on a eu l'arc Age of Ultron qui est sorti en comics, que moi, personnellement, je trouve relativement bof, mais il y a quand même des scènes plutôt cool. Je crois que toi, tu l'aimes bien, Fask, non?
Non, c'est Rage of Ultron.
C'est Rage of Ultron, c'est ça.
Age of Ultron, j'avais pas du tout aimé, en fait. C'est le truc avec le voyage dans le temps où il
doit
passer tuer Hank Pym. Ouais, non, j'avais pas, non.
On est en face, du coup. et donc, celui-ci, il y a quelques Wadis qui sont sortis à côté. Donc, c'est encore une fois ce que Cebulski avait relancé en 2005. Ils ont repris le truc. Et on va avoir quatre Wadis qui vont se dire, mais qu'est-ce qui serait passé si un tel serait mort à la place de Hank Pym, du coup, qui est là.
D'accord.
Qui, du coup, meurt dans l'arc principal. On va voir donc le premier qui va se tourner autour de Wasp, le deuxième autour d'Iron Man, le troisième pour Thor et le quatrième pour Captain America. On va vraiment savoir comment ce serait passé si c'était eux qui étaient morts à sa place. Et le cinquième, ça reste le plus intéressant, parce que du coup, c'est qu'est-ce qui serait passé si Hank Pym n'avait jamais créé Ultron. Parce que Ultron qui est quand même le reflet d'Hank Pym, mine de rien, qui a beaucoup de... niveau psyché, qui a beaucoup de choses qui sont prises dans Hank Pym. Qu'est-ce qui serait passé pour le personnage du scientifique si jamais il avait jamais créé cet alter ego un peu maléfique, du coup.
What If Age of Ultron, donc une saga, on va dire ça comme ça, sortie en 2014. La deuxième recommandation, c'est What If House of M, donc une version alternative d'un de mes arcs préférés des comics, House of M.
Ouais, alors là, du coup, ça se penche vraiment que sur le final de House of M. C'est pour savoir qu'est-ce qui serait passé si Scarlet Witch avait dit plus de pouvoir à la place de plus de mutants. Ce qui est là, comme ça, sur la phrase, la nuance a l'air assez fine. Mais quand on dit plus de pouvoir, du coup, ça implique plus que les mutants, sans forcément faire disparaître tout un pan de la population, du coup, quoi.
What If House of M, donc. Et puis le dernier, c'est What If Spider-Man Became a Murderer.
Ouais. Alors celui-là, pour le coup, c'est exactement pour ça que je l'ai pris. Je l'ai lu il y a très très longtemps, donc je suis un peu brouillon sur l'histoire. Mais rien que le titre, en fait, me fait marrer de savoir qu'un mec comme Peter Parker pourra devenir un meurtrier. c'est une idée qui est... Enfin, il y a une tétrachée très bonne idée dans les What If, et je vous invite à aller visiter la page Wikipédia à la liste entière, hein, si vous voulez voir les titres, vous allez kiffer. Mais celui-ci, je pense que c'est celui qui parle plus en grand écart à voir... Un mec comme Peter Parker qui devient un meurtrier, c'est... bon, voilà.
C'est pas tous les jours, c'est clair. Ça, c'était donc en 95. Merci Fox pour le focus, merci Thomas pour les recommandations de lecture et on va passer au courrier des auditeurs.
Excuse me, Mr. Stark. Christine Everhart, Vanity Fair Magazine. Can I ask you a couple of questions?
Hi.
Hi.
Yeah.
It's okay?
Okay, go.
Et c'est l'heure de la rubrique courrier des auditeurs où on répond à deux, trois de vos questions. On essaie de rester bref, factuel et sans faire trop de théorie crafting. La première question nous vient de Yunkel07 qui nous demande « Vous pensez qu'ils introduiront les X-Men Wolverine via Madripoor dans The Falcon and the Winter Soldier ? Ça ferait pas un peu cheapos comme porte d'entrée ?» Alors oui et non, Madripoor peut servir à semer des petites graines d'informations pour plus tard, à faire des petits easter eggs, mais pas forcément à introduire de manière physique les mutants dans le MCU. Je pense que ça, ils vont se le réserver à mon avis pour un film. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas trop les mutants principaux en tout cas. Hein. On pense aux X-Men forcément, donc je les vois pas être introduits dans une série Disney+. Ça me semblerait étrange. Je sais pas. Peut-être que c'est juste moi.
Bah alors, les mutants non, mais Wolverine, moi je kifferais que l'introduction elle se fasse à Madripoor. Peut-être en série ou en film, je sais pas. En série plutôt, ça me brancherait un peu plus, mais. Moins des univers dans lesquels je préfère voir évoluer Wolverine, c'est à Madripoor. Donc, s'ils veulent le faire, je serais chaud. Mais les mutants en entier, non, ce serait pas...
Et toi, Fox, t'en penses quoi?
Je suis assez d'accord avec Thomas, en fait. Pour moi, on en a déjà parlé dans une précédente émission, pour moi, Madripoor est un socle très important pour l'avenir du MCU. Parce que c'est un socle du crime, il y a Hydra, il y a IM, il y a tous les méchants qui sont là-bas. Voir Logan là-bas, je dirais pas non. Honnêtement, je dirais pas non de voir que Logan, en fait, il est arrivé là, d'une manière ou d'une autre. Peut-être dans une phase où justement il y a plusieurs phases dans la vie de Logan où il perd sa mémoire en partie, où il fait profil bas, ce genre de choses, ça me dérangerait pas de le voir là, au contraire, ce serait fun. Après, je préfère largement qu'on ait un socle solide pour Madripoor, qui soit ancré dans le MCU et qui soit réutilisé plus tard pour d'autres séries ou même pour surtout pour les films. Et après, peut-être, oui, pourquoi pas introduire Logan, et ses arcs dans Madripoor sont vraiment géniaux, donc oui, je suis relativement d'accord.
Alors Madrinity, un fidèle auditeur des clairvoyants, qui nous demande, pensez-vous que les séries Marvel Studios Disney Plus nous permettront de voir plusieurs types d'univers développés dans le MCU? Par exemple, un univers Midnight Suns avec une série Moon Knight où on pourrait voir Elsa Blood Stone ou Weapon X pour introduire Wolverine et les mutants. On vient d'en parler, en gros, hein, la genèse de nouveaux personnages dans les séries, pourquoi pas, et on peut éventuellement envisager des crossovers entre les séries Disney Plus aussi, avec des personnages peut-être plus secondaires, ou des personnages qui, au contraire, méritent plus de temps de développement que dans un court film, finalement, de 2 heures, où il faut globalement introduire ton personnage dans le premier acte et donc dans les premières 40 minutes. J'ai pas d'idée comme ça en tête, il faudra voir un peu comment se développent les séries télé. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont annoncées, donc ça va permettre effectivement pas mal de crossover. Donc je serais pas étonné effectivement qu'il y ait des espèces de mini MCU dans le MCU avec des univers peut-être un peu plus spécifiques. Ce qu'a essayé de faire finalement Marvel Television, notamment avec les séries Netflix, et sans vraiment y parvenir, puisqu'il n'y avait pas cette connexion organique avec le MCU. Et puis on va terminer avec une question de Brozouk qui nous demande, quelqu'un a des nouvelles du coffret Blu-ray de la phase 3 partie 2? Ça commence réellement à faire long depuis la sortie de Far From Home quand même. Alors je me suis un peu encardé, j'ai pas eu de réponse définitive, mais sur Amazon en tout cas, il y a effectivement toujours pas de version française pour le box. On n'a pas plus d'infos pour le moment du côté de Disney, et effectivement c'est assez étrange. Alors moi je me disais que c'était peut-être lié à la présence de Far From Home dans le coffret. On sait que c'est Sony qui a les droits de distribution et que donc ça doit être un peu plus complexe à gérer au niveau international que des sorties qui sont en interne exclusivement Marvel Studios. Et c'est peut-être pour ça que ça coince finalement donc sur le territoire français. On va essayer de se rencarder pour la prochaine fois. On va envoyer une petite sonde à gauche à droite chez nos amis de Disney pour revoir un peu où ça en est, parce que c'est vrai que ça fait un moment là en fait qu'elle aurait dû sortir et qu'on l'attend.
Ça fait beaucoup trop de temps. Ouais.
Parce que du coup la première partie, y a pas Homecoming dedans?
Ah c'est possible, tiens. Faudrait que je m'en encarde.
Parce que du coup, ça prouverait qu'ils peuvent... Peut-être que ça prend du temps à négocier, mais ça prouve qu'ils peuvent le faire, ça.
Non, mais je suis pas inquiet sur le fait qu'ils y arrivent un jour ou l'autre, hein, mais c'est vrai que là, l'attente est quand même assez longue. Donc bah écoute, on va se rencarder, Brozouk, et puis si on a plus d'infos, on en reparlera dans un prochain épisode des Clairvoyants.
Bah, au pire des cas, je sais que sur Amazon UK, il y a le coffret à 450-500 patates, là, celui avec la belle lettre signée, machin, qui est disponible normalement. Et vu que c'est sur Amazon UK, ça fonctionne sur nos lecteurs Blu-ray.
D'accord.
Donc pour ceux qui ont un petit pécule à dépenser,
c'est le moment.
Pareil pour les Blu-ray canadiens, hein. Vous pouvez acheter les coffrets sur Amazon Canada et sur des sites qui vendent des Blu-ray canadiens, parce que vous avez des versions françaises si vous voulez des voix françaises, mais ça passe aussi sur nos lecteurs.
Are you talking about a time machine? No,
No, of course not. No, not a time machine. This is more like, yeah, like a time machine.
Et c'est l'heure de notre Quantum Trip, notre petit flashback sur un ancien épisode où on aime bien se moquer de nos prévisions foireuses. On va revenir sur l'épisode 10. C'était au tout début, encore des clairvoyants. C'était encore sans Thomas qui échappe pour le moment à ce jugement a posteriori, mais ça viendra, ton tour viendra. C'était l'arrivée à l'époque des séries Netflix, avec elles leur lot d'espoir pour un MCU étendu, on connaît la suite. Et ce mois-là, on avait du coup fait un focus sur Daredevil, et on était encore très fans des Agents of S.H.I.E.L.D. D'ailleurs, on spéculait pour la 512e fois sur l'intégration de la série dans Age of Ultron, et vous allez voir que, voilà, on fait travailler nos neurones. Personnellement, j'ai une petite théorie sur la connexion avec Age of Ultron. Bon, j'espère que vous êtes tous à jour, hein, parce que ça va spoiler à mort. Donc, on sait que le personnage qui est joué par Edward James Olmos, donc Gonzalez, qui est le responsable du Real S.H.I.E.L.D., donc le vrai S.H.I.E.L.D., qui est une espèce de version miroir du S.H.I.E.L.D. qui s'est un peu créé par lui-même après les événements de The Winter Soldier, hein, puisqu'on a eu un flashback de nouveau vers cette période-là. Il était sur un navire où il y avait un artefact ou manifestement quelque chose que le S.H.I.E.L.D. ne voulait absolument pas qu'Hydra réussisse à récupérer. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, j'ai une théorie. Il pourrait s'agir du projet Ultron, tout simplement, en fait, qui donc manifestement était déjà un projet en développement à l'époque de Papa Stark, qui a été mis un peu au placard et qui pourrait donc être ce qui se trouve sur ce navire, à l'instar un peu du projet Insight, hein, qui était sur le bateau au début de The Winter Soldier, et que donc ça pourrait être la connexion avec Age of Ultron, le fait que quelque part Tony Stark récupère donc le projet Ultron et se l'approprie et on fasse la catastrophe qui va être à l'origine du film qu'on verra d'ici 3 semaines.
Sur la connexion dont tu parlais avec Ultron, je pense que ce qui serait marrant, parce qu'il y a peut-être des connexions avec Ant-Man, parce que ça pourrait être un projet de Papa Stark et d'Hank Pym.
Tout à fait, ouais.
Donc ce serait génial d'avoir Henry Pym et Stark qui bossent ensemble.
Ça serait une manière en fait de revenir au matériel source des comics,
voilà.
En contournant en fait les inconvénients qu'ils ont rencontrés dans l'MCU et qui les ont obligés donc à attribuer la paternité d'Ultron à Tony Stark. Quelque part, si malgré tout Hank Pym, le personnage donc joué par Michael Douglas, qui est donc manifestement plus un personnage contemporain des années 60, on va dire. Si c'est lui qui a fabriqué le projet Ultron à la base avec Papa Stark, ça pourrait être un chouette clin d'œil, une chouette manière de satisfaire les fans des comics en revenant un peu quelque part d'une manière détournée aux origines d'Ultron. Donc voilà, on voulait absolument faire rentrer Ultron dans les moules du comics et donc en faire de Hank Pym son papa. Donc on inventait des trames qui permettaient de faire en sorte que Hank Pym soit finalement le père spirituel de Ultron. Ça ne s'est pas fait. Et finalement, c'est pas plus mal, en fait. Enfin, je sais pas, rétrospectivement, je trouve que c'était une bonne idée de l'adapter à Tony Stark plutôt que d'essayer de faire rentrer ça dans les cases Hank Pym.
J'aime beaucoup la dualité, justement, entre Stark et Banner sur ce coup-là, en fait. J'ai moins kiffé, j'avoue un truc, j'ai quand même moins kiffé de voir la disparition de Jarvis au profit de Friday, mais j'ai vraiment kiffé ça. Puis il y a plein de trucs autour qui sont rigolos quand tu regardes ce film, notamment la carte AI de Jocasta.
Ouais.
Et là, j'étais comme un ouf parce que j'ai dit, il y a Jocasta, c'est bon, ça va être la fête. Et finalement, non, jamais, toujours pas.
Voilà, et pendant ce temps-là, Thomas reste très silencieux, évidemment, puisqu'il ne participait pas encore à l'émission
Lâche.
À l'époque. Et donc, voilà, il préfère se taire, se faire discret pour le jour où ça va arriver. Je ne sais plus dans quel épisode t'es arrivé, mais je suis impatient. Je suis impatient de voir si on va pouvoir t'intégrer dans cette rubrique Quantum Trip. Et c'est la fin de ce 70e épisode des Clairvoyants. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur la saga What If. Voilà, on fait contre mauvaise fortune, bon cœur, en l'absence de news, on a fait un gros débrief de la phase 3, une demi-heure, c'est quand même pas mal. J'espère que c'était intéressant. On se retrouve le mois prochain, on l'espère, avec quelques news quand même sur le MCU. On espère que tout ce beau monde va se réveiller un petit peu après la pandémie, même si je doute que ça redémarre au quart de tour. Et puis bon, on fera un focus, je sais pas encore sur quoi d'ailleurs, on n'a pas encore arrêté de focus, peut-être peut-être le moment de faire un focus sur Falcon et Winter Soldier, peut-être de revenir un peu sur la série qui, a priori, devrait être la première à sortir sur Disney+. Enfin, c'est même pas encore sûr. C'est difficile. Hein. Je sais pas si vous avez des idées.
Bah, on a les What If qui arrivent, on en a parlé. Maintenant, ça va être Falcon Winter Soldier. Sinon, bah, on fera un focus sur un perso que vous nous recommanderez dans vos questions.
On fera ça. Allez, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Clairvoyants. N'oubliez pas le Patreon de Geekzone, patreon.com/geekzonefr pour nous soutenir dans la production des podcasts. Au mois prochain, les petits gars. Ciao.
Et bisous.
Bisous tout le monde.
Ciao.
Alors, on est parti, on record.
Lancement de 1.
Attends, je vais boire une gorgée de Coca-Cola.
Et moi, c'est de la Rosanna.
Allez, les placements de produits, ça commence.
Oui. Eh, hey, c'est Disney, mec.
Les Clairvoyants vous est présenté par...
Durex.
Carrément.
Oh, c'est le nom de ma sextape. Hein. Le nom de notre sextape, mes
Putain,
enfants.
Ça dérape dès les premières secondes, quoi.
Cheeseburger, non.
Les Clairvoyants.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur geekzone.fr avec une sélection de l'actualité proposée par Caféine et Faskill. Gaming, culture, software et tech ont fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'une demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. Torréfaction, c'est votre rendez-vous avec l'actu geek tous les vendredis matins à 8h sur geekzone.fr.